C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous retrouvons le prisonnier de Ham. Que va-t-il devenir ? Pour Louis, Napoléon Bonaparte, la vie d'aventure et de débauche semblait terminée. Le pire était à venir. Oh, pas l'enfermement, il s'était fait livrer des centaines de livres, il se livrait à des expériences de physique et chantait l'opéra en duo avec Montholon. Louis écrivit l'analyse de la question des sucres, signa une brochure sur l'extinction du paupérisme et se lança dans une histoire de l'artillerie. Non, ce qui rendait notre détenu à demi-fou, c'était l'absence de femme à trousser. Il y eut bien une poitrinaire, introduite par Télin et qui devint la maîtresse du valet, après que ses cris de plaisir eussent fait craindre à son compagnon de captivité qu'ils alertassent les geôliers. Puis ce fut le tour d'Éléonore Vergeot, la repasseuse, à qui le prince dispensa des leçons d'histoire et bien entendu d'anatomie avec beaucoup de travaux pratiques. Il la reçut bientôt au vu et au su du commandant de la citadelle et la toute jeune femme sut lui rendre l'incarcération supportable. S'imaginant déjà en future impératrice, Éléonore enrichissait ses connaissances en histoire, littérature, grammaire et géographie. Et pendant ce temps, à Paris, où l'on avait eu connaissance de cette liaison intramuros, on murmurait que Louis avait toujours aimé les repas sages. L'attachement réciproque entre le prisonnier et sa visiteuse était tel que lorsque Madame Gordon, cornaquée par un ministre, avait rendu visite au détenu, en lui précisant qu'une évasion serait facile et plutôt bien vue du gouvernement, qui fournirait passeport ainsi qu'un billet pour Mexico à la condition d'obtenir une lettre de renonciation, Louis avait rétorqué préférer son séjour à Ham. Il arriva alors que Éléonore se trouva enceinte, et le 25 février 1843, elle accoucha à Paris de Eugène Alexandre Louis, qu'elle laissa en nourrice à sa tante avant de regagner Ham. Louis se soucia du bien-être de l'enfant qui fut confié à une amie d'enfance avec possibilité pour Éléonore de le voir et de dormir sur place. Un an plus tard, un deuxième enfant suivit qu'on baptisa Louis-Alexandre Ernest. En mai 1846, une équipe de maçons entreprit d'effectuer des travaux au fort de Ham. L'idée germa alors dans la tête du prince de tenter une évasion. Il éloigna Éléonore sous un prétexte inventé et lui enjoignit de se réfugier chez Madame Gordon. Puis, il commanda à son valet un accoutrement d'ouvrier, chemise en grosse toile, pantalon, blouse, cravate, foulard, casquette à user à la pierre ponce, sans oublier une perruque. Le problème, en fait, était moins de parvenir à s'évader que de passer à l'étranger sans passeport. Alors, deux Anglaises survinrent fort opportunément pour rendre visite à Louis-Napoléon, les dames Crawford, mère et fille, qui fournirent obligeamment un passeport destiné officiellement au valet Télin, devant, paraît-il, se rendre en Belgique pour affaires de famille. Désormais, l'évasion pouvait être tentée. Accoutré en ouvrier maçon, moustache rasée, visage rougeaud, des sabots aux pieds, Louis, pipe à la bouche et visage dissimulé par une planche de bibliothèque qu'il transportait, gagna la cour de la prison tandis que les ouvriers que Télin avait conviés à boire un coup dans les appartements du prince désertaient le chantier. Malgré quelques avatars dont la pipe cassée dont il fallut ramasser les morceaux et l'œil inquisiteur d'un gardien et de deux ouvriers croisés qui le prirent pour un collègue, l'évadé réussit son coup et fut récupéré par Telin menant une voiture de louage et nos compères prirent la direction de Saint-Quentin que Louis contourna à pied tandis que Telin changeait les chevaux avant de le récupérer et de filer sur Valenciennes. Ils rejoignirent Lady Crawford dans une auberge, elle remit le passeport et ce fut l'attente du train pour Bruxelles sur un quai de gare. Enfin, après quelques minutes d'angoisse lorsqu'un employé de chemin de fer ex-gardien au fort de Ham dut être circonvenu par Telin, ce fut le wagon, la frontière et enfin Bruxelles avant de gagner Londres.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Billy Rose was a low rider, Billy Rose was a night fighter, Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car, the local midnight sheriff's claim to fame.
in an Arizona jail. There is some who tell the tale how Billy fought the sergeant for some milk that he demanded, knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost. They saw he was severely reprimanded. In the black cell on A block, he hanged himself at dawn with a note stuck to the bunkhead. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican, the law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, a brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Him with a needle in his arm, but the dope just crucified him, and he died to no one's great alarm. Come and lay, help us lay poor Luna down, and we'll raise the prison to the ground. Kilowatt was an aging con of 65 who stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. As the time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. He was approached by the police, who took him to the warden, walking slowly by his side. The warden said, "You won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life." He stepped out in the Texas sunlight, and the cops all stood around. Then threw himself down on the ground. They might as well just have laid that old man down. But we're gonna raise the prisons to the ground. Help us raise the prisons to the ground.
Et c'est là, dans ce pays qui avait vaincu son oncle, qu'il fut présenté à Harriet chez les Blessington. Tandis que dehors la tempête fouette encore les murs de l'auberge, Miss Howard repose sa tasse de thé et ses pensées dérivent. Les Blessington, un curieux ménage à trois. Madame qui a un passé chargé mais s'est refait une vie mondaine et respectable en épousant monsieur, mais qui a soudain rencontré le beau comte d'Orsay, version française de Brummel. D'Orsay lançait des modes rien qu'en portant un sac de toile quelques heures. Il séduisit madame sous les yeux aveugles du mari, qui décéda d'apoplexie quand on lui fit recouvrir la vue. D'Orsay épousa la fille Blessington tout en gardant sa mère pour maîtresse, jusqu'au jour où l'épouse, découvrant la réalité, s'enfuit avec la fortune des Blessington, obligeant D'Orsay et madame veuve Blessington à travailler pour vivre. Pour l'heure, à l'époque de la présentation de Louis à Miss Howard, les époux Blessington tenaient encore salon et madame n'avait point encore succombé. D'Orsay avait rencontré le prince en 1840. Louis était totalement désargenté ne connaissait pas grand monde à Londres et entendait se distraire avant de retenter un troisième coup d'État. D'Orsay l'introduisit dans le tout Londres et lui organisa des soirées orgiaques telles que Mont-Louis les affectionnait. Certains ont prétendu que Louis avait rencontré Harriet dans les brouillards interlopes de Londres, qu'il avait vécu de charmes qu'elle monnayait fort cher à des gentlemen fortunés et que la fortune de la belle Élisabeth provenait de sa capacité à attirer des admirateurs dans un cercle de jeu privé où on les délestait aux cartes tandis qu'elle les charmait et, contre une petite fortune, passait dans leur lit. Louis aurait donc mené grand train grâce aux activités d'une courtisane. Mais la vérité est tout autre. Lorsque se fit leur rencontre chez les Blessington, il la divertit avec ses aventures rocambolesques de conspirateur et elle le fit bénéficier de sa science amoureuse extrêmement raffinée, ce qui le combla. Ils étaient malheureusement nantis de progéniture, pour Harriet un fils avec un homme marié, mon gentil major, pour Louis deux fils avec sa repasseuse. Flairant l'avenir promis à son prince, avenir que pronostiquaient des gens du calibre de Disraeli, Harriet décida de rompre avec son major, et chose incroyable, cet homme non seulement accepta la situation, mais il lui laissa sa fortune considérable, ses propriétés, ses attelages, ses bijoux, et elle se retrouva richissime, mettant cette richesse au service de Louis qui put ainsi frayer dans le Londres le plus huppé, chasser le renard, avoir sa loge à Covent Garden. De l'autre côté du Channel, on ne le connaissait plus que sous le sobriquet de Badinguet, dont les origines sont très incertaines, certains avançant à tort que c'était là le nom d'un ouvrier maçon au fort de Ham, ce qui est inexact. Quelle qu'en soit l'origine, ce surnom et les caricatures qui l'accompagnèrent allaient coller comme un sparadrap aux bottes du futur empereur. Se préparant à un avenir prestigieux lorsque son prince gouvernerait enfin la France, Elizabeth Ann Harriet, qui ne se faisait plus appeler que Miss Harriet Howard, prit des précepteurs pour compléter son instruction rudimentaire. À Paris, la haute société de Louis-Philippe était éclaboussée par les scandales de mœurs. La royauté s'écroula en février 1848 lorsque le souverain se piqua d'interdire le banquet des partisans d'une réforme de la Constitution. Cela se termina par des barricades, le roi prit la fuite, la voie était libre pour le prince. Mais avec quel statut ? La duchesse d'Orléans tenta de se proposer pour la régence en poussant ses deux fils, mais des révolutionnaires surgirent qui bousculèrent les députés et prirent à la gorge le petit comte de Paris. La duchesse s'enfuit avec ses enfants, Lamartine et Ledru Rollin se fendirent de discours, et tandis que le peuple déchaîné pillait le palais royal et saccageait les Tuileries, un gouvernement provisoire était constitué. Le lendemain, la République était proclamée et le suffrage universel instauré. Il y eut pléthore de candidats tous plus pittoresques et se targuant de qualités imaginaires, feignant pour certains une fausse humilité. Certains tentaient de rallier paysans et ouvriers. Un autre de petite taille draguait les suffrages des personnes lui ressemblant. Un autre encore préconisait de remplacer les ouvriers par des machines. Et il s'en trouva un pour proposer que les hommes de plus de 30 ans, encroûtés dans leurs habitudes, devaient avoir le bon goût de mettre fin à leur jour et de faire place nette aux plus jeunes. Quant aux femmes, un certain Borme, se présentant comme expert en machines de guerre, placarda une affiche invitant les filles célibataires âgées de plus de 15 ans et de moins de 30 à se présenter pour constituer un régiment sous l'appellation des Vésuviennes. Elles répondirent massivement à l'appel et notre homme constitua un harem avec les plus attirantes en prônant l'amour libre comme tout gourou qui se respecte, avec bien sûr des travaux pratiques présentés comme un rite de libération avec tant de postulantes qu'il fallut les instruire par ordre alphabétique. Réparties en trois corps, les ouvrières, les vivandières et les infirmières, elles vivaient en phalanstère qui se transforma rapidement en bordel. Elles portaient une sorte d'uniforme surmonté d'un képi, s'étaient fabriqué un hymne à elles, informé de la situation et nanti d'un pécule par Harriet Howard, Louis se rendit à Paris, proposa ses bons offices au service de la République, mais informé que l'interdiction du territoire aux Bonaparte n'avait pas été abrogée, il se hâta de revenir à Londres. Il suffisait de patienter. Les révolutionnaires parvenus au pouvoir se conduisaient comme des parvenus, se partageant châteaux et menant grand train, ce qui, ajouté à leur vie de satrape, scandalisait le peuple. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et avocat Ledru Rollin, avant de laisser son patronyme à une station de métropolitain, troussait la gueuse avec acharnement et se taillait une réputation d'orgiaque. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, les élections approchent. Le candidat Louis-Napoléon a-t-il ses chances ? Les paris sont ouverts. What's a cowboy?